Oui, j'ai préparé une prédication, mais en même temps, j'écoute tout à l'heure et avec ce thème du médiateur. Et oui, c'est extraordinaire que Jésus ait voulu être le médiateur. Déjà, c'est extraordinaire qu'il ait voulu l'être, sachant que pour l'être, il fallait venir sur terre. Il fallait passer du temps avec nous. Déjà, nous, on trouve pénible de passer du temps avec nous. Hein? Et lui, il a bien voulu le faire. Mais vous savez, mettre en place la rédemption du monde, c'était pas si simple que ça. C'est pas juste on arrive comme ça et puis on meurt. Et puis, parce que, bien sûr, Dieu avait un plan. Il a fait un plan, il a voulu. Il l'a préparé même avant que l'homme ne pêche, il avait déjà prévu le moyen de salut. Tellement il voulait garantir notre salut. Mais, vous savez, et souvent on met en valeur le fait que, bon, il y a eu Pilate, il y a eu Hérode, et tout ça, et tout ça. Mais il y a aussi des gens qui étaient favorables, qui en fait partie. Et vous savez, comme dans l'Ancien Testament, Dieu s'est servi autant de rois étrangers pour aider Israël à venir vers Dieu, par exemple Pharaon. Et en même temps, il s'est servi de personnes au sein du peuple pour que le peuple vienne à Dieu. Et je crois que c'est important pour nous de comprendre comment Dieu utilise et les personnes de l'extérieur, mais il utilise aussi ceux qui sont à l'intérieur. Et parfois, ce n'est pas toujours les plus visibles qui sont utilisés par Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean et au chapitre 12. L'évangile de Jean, chapitre 12, la prédication est intitulée « Jésus, le maître de la situation ». C'est difficile d'imaginer qu'il était maître de la situation alors que c'est lui qui va sur la croix. Mais justement, c'est ça qui montre qu'il était maître de la situation parce qu'il a été sur la croix quand il a voulu aller sur la croix. Et il l'a fait à l'heure prévue. Jean, chapitre 12, et donc je lis à partir du verset 9. Jusqu'au verset 19. Il dit « Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. » Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi, viens, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Les pharisiens qui croyaient contrôler le peuple, là, tout d'un coup, ils ont l'impression que ça leur échappe. Et on sent même une panique là. Ils voient venir la fin de leur système. Parce que, déjà, il nous dit dans Marc chapitre 14, il nous dit que les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchaient un moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Ils se sont dit, il y a une grande fête là et tout le monde vient, on ne veut pas un peu bousculer les choses parce que ça risque de provoquer la révolution. Tous ces gens de Galilée qui ont été guéris, tout ça, ils risquent de le défendre. Donc on va attendre que tout le monde soit rentré chez eux, que les choses se calment et puis là on va saisir Jésus-Christ et puis on va s'occuper de lui. Ils avaient prévu que ça se passe après la fête. Mais ce avec quoi ils n'ont pas tenu compte, ceux qui n'ont pas tenu compte, c'est que dans Jean 13, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens dans ce monde, mit le comble à son amour pour eux. Et c'est à ce moment-là qu'il a lavé leurs pieds. Mais Jésus savait que le moment venait. Cela devait se passer un jour précis. Et Dieu avait un plan et les hommes avaient un plan. Bien sûr que nous savons que Dieu est souverain. Mais Dieu est souverain quand il est Dieu dans sa souveraineté ne va pas à l'encontre de la volonté des hommes. Il se sert de la volonté des hommes. Bonne volonté, meilleure, mauvaise volonté, mais il se sert de la volonté des hommes pour accomplir ce qu'il a toujours voulu. C'est là la souveraineté de Dieu. N'importe qui peut forcer quelqu'un à aller contre son gré. Mais faire ce que tu veux faire alors que la personne est volontaire, ça c'est autre chose. Et Jésus va pouvoir mettre en place sa crucifixion en n'imposant à personne quelque chose qui soit contre leur volonté. Tout ce qui a été fait pendant la crucifixion de Jésus, chacun l'a fait parce qu'il a voulu le faire. Et ça se passera le jour même que Jésus et que Dieu aura voulu qu'il meure. Et c'est là où je vois la puissance de Dieu. Vous savez, ce que la ville de Bethléem a été pour la naissance de Jésus, le village de Béthanie sera pour la crucifixion de Christ. Première remarque, ce sont tous les deux des petits villages en dehors de Jérusalem, ce qui est triste. Parce que normalement, c'était Jérusalem, Sion, qui était le centre de l'activité de Dieu. Mais c'est un peu comme se trouve dans l'Apocalypse chapitre 2, et j'espère que ce n'est pas notre cas aujourd'hui, mais Jésus se tient à la porte et il frappe. Là, Jésus doit faire son QG et le plan de Dieu se met en place, mais en dehors de Jérusalem. Mais cela n'empêche pas que Dieu, pour Dieu de réaliser son plan. Et Jésus arrive dans la région de Jérusalem 6 jours avant la Pâque. Il nous dit dans Jean chapitre 12 et au verset 1. Et après l'entrée de Jésus sur l'anon, en accomplissement de la prophétie, comme nous venons de le lire, eh bien, à la fin de la journée, il nous dit, en Matthieu 21, verset 17, il nous dit qu'il se rendit à Béthanie. Après les chapitres prophétiques de Matthieu, eh bien, nous voyons Jésus, après ce long sermon, eh bien, il rentre à Béthanie, et il va dans la maison de Simon le lépreux. Et c'est dans cette maison-là, dans la maison de Simon le lépreux, que Marie, donc sœur de Marthe et Lazare, va oindre Jésus, ses pieds, sa tête, et devant des disciples horrifiés pour la dépense et surtout ceux qui considèrent un gaspillage. Mais la préparation de la crucifixion de Christ est en train de se préparer à partir de Béthanie. Petit village humble. Chez quelqu'un, un ancien lépreux qui a été guéri. Ça se prépare aussi chez Marthe, Marie et Lazare. Des gens tout ordinaires. Mais Dieu développe des plans extraordinaires. Où il y aura, Christ va mourir afin de pouvoir devenir notre médiateur. Et cela se fera dans un endroit humble. C'est pas toujours, les grandes choses de Dieu ne se passent pas toujours là où les grandes choses des hommes se passent. Et vous n'êtes pas obligé d'être à Bruxelles ou à Strasbourg ou à une autre capitale européenne pour que des grandes choses se passent. Ça peut être dans le 93. C'est déjà commencé. Regardons un peu comment Dieu met tout cela en place. Dans Luc chapitre 10, donc avec moi, allez dans Luc chapitre 10. C'est extraordinaire comment ça se met en place parce que le verset 38 nous donne l'impression que les rencontres sont fortuites. C'est le hasard qui a voulu. Luc chapitre 10, verset 38 dit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. » C'est comme si c'était au hasard, bon, il passe, et puis ouais, la dame, elle les voit passer, mais tout d'un coup, elle ressent quelque chose, et puis elle dit « Tiens, venez ici, c'est l'heure de manger. » Et puis, bon, je ne sais pas combien de dames seraient prêtes à inviter 13 hommes à sa table, comme ça. Hein. Je n'ai jamais été dans cette situation-là. Moi, d'inviter une personne, ça me ferait la panique. Hein. Avec mes capacités de cuisine, je suis plutôt consommateur. Mais là, Marthe invite Jésus et ses disciples dans la maison. Vous savez, la pauvre Marthe, on l'a souvent critiquée hein, par la suite parce qu'elle était occupée à... Mais ben imaginez, on reçoit 13 hommes, hein, il faut être occupé, il faut courir dans tous les sens. Moi, j'ai vu ma femme courir pour moins que 13. On est dur avec elle. Parce qu'un peu plus tard, elle dira à Jésus, mais ça ne te touche pas, ça ne te gêne pas que ma sœur, elle ne fait rien là, elle reste assise à te regarder. Et moi, j'ai tout le travail. Vous savez, parfois, pour une parole malencontreuse, pour un geste déplacé, parfois les gens oublient tout le bien qu'on a fait. C'est certainement, ça vous est arrivé, ça nous arrive à tous. Mais bon, le problème, c'est que ce soit arrivé. Non, mais ne soyons pas celui qui commet cette erreur. Hein, ne voyons pas que le point noir sur la page blanche. Hein. Et donc là, ne soyons pas trop durs avec Marthe. On avait besoin d'une Marthe. Et c'est sûr qu'avec la pression et tout ça, bon, c'est parti, mais on la pardonne. On la pardonne. Parce que nous, combien de fois nous avons bénéficié de pardon aussi. Elle a l'impression qu'elle est toute seule. Jésus semble défendre Marie. Et je suis certain que ce n'est pas une situation de paresse, parce que Jésus ne défend jamais la paresse. Dieu ne défend jamais le paresseux, celui qui reste au lit 10 minutes plus tard et puis il arrive au culte 10 minutes en retard. C'est Dieu ne justifie jamais, il n'excuse jamais la paresse. Et si c'est important, on le fait. Mais certainement que Marthe, eh bien, elle s'est créée du travail supplémentaire. Elle dit, Marthe, écoute, le problème, c'est pas que Marie ne t'aide pas, mais c'est que tu es en train de faire trop de choses. Tu te laisses aller, tu veux te faire trop bien. On n'est pas là pour manger, on est là pour être ensemble. Parce que Jésus est en train de déjà penser à ce qui pourra se faire au travers de cette famille, où il y a une sœur, une autre sœur, et puis il y a, j'imagine, petit frère. Je ne veux pas que vous répondiez, réfléchissez. Quel est l'aîné, Marthe ou Marie? Je vous laisse réfléchir. Vous venez de cultures très différentes, réfléchissez. C'est la plus petite qui fait le travail ou c'est la plus grande qui fait le travail? Regardez dans votre culture et essayez de deviner. Mais je pense que le frère, c'est le petit. Mais bon, ça c'est mon idée, ce n'est pas important. La question, c'est que c'est une famille humble. Ils ont dû perdre des parents, personne n'est marié, ils essayent de survivre. C'est une famille très humble, une maison très humble, mais qui veut servir Dieu, comme nous en avons beaucoup, n'est-ce pas? Mais Jésus dit au sujet de Marie, il dit au verset 42, il dit « Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part ». n'est pas qu'elle l'a reçue, elle a eu la chance de l'avoir. Non, elle l'a choisie. Et le choix est devant chacun d'entre nous, de choisir la bonne part. Et quelle est cette part? Eh bien, c'est de se mettre aux pieds de Jésus. C'est sur terre, c'est l'endroit le plus élevé qu'on peut atteindre, c'est de s'asseoir aux pieds de Jésus. Et en fait, Marie, après ce choix, on va la trouver, et chaque fois que son nom est mentionné dans la Bible, on la trouve toujours aux pieds de Jésus. Dans Jean chapitre 11, elle est aux pieds de Jésus. Dans Jean chapitre 12, elle est aux pieds de Jésus. Elle a fait un choix. Et ça, c'est. Et Jésus dit, et nous devons faire très attention, quand Jésus dit que c'est bien, eh ben alors il faut s'arrêter et dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi aussi, je veux faire quelque chose de bien, quelque chose qui lui plaît. Et ce qu'elle a fait, c'est de s'asseoir à ses pieds pour l'enseignement, de s'asseoir à ses pieds pour décharger ses fardeaux, son frère est mort, pour s'asseoir à ses pieds pour l'adorer en loignant d'un parfum. C'est le choix. Et ça doit être notre choix, on n'a pas besoin de regarder à quelqu'un d'autre. Et vous savez, Marie n'a pas été obligée de répondre ni de se justifier. Jésus a répondu pour elle. Quand on fait un bon choix, on n'a pas besoin d'en parler. Jésus s'en occupe. Marie, parce qu'elle s'est assise au pied de Jésus à ce moment-là, eh bien, elle oindra Jésus parce qu'elle aura compris qu'il doit mourir et qu'il ressuscitera. Et donc, elle est en train de l'oindre pour l'embaumer. Alors que les disciples, et on le verra dans le chapitre 12, les disciples, eux, sont encore en train de penser à Jésus vivant et qu'il ne doit pas mourir. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir à ses pieds et de recevoir, ils ne sont pas sur la même onde, ils ne sont pas synchronisés avec les pensées de Jésus. Mais elle, parce qu'elle a fait ce choix, elle a dit, elle a fait ce choix, elle comprend l'œuvre de Dieu, elle ne souffre pas comme les autres. Vous savez, notre monde est très perturbé. Et si nous sommes en train de penser comme le monde, nous aussi on est perturbés à la fin du journal télévisé. Mais lorsqu'on a la pensée de Dieu, on voit au-dessus de cela, on dit, mais Dieu est en train d'accomplir son plan. Le monde se déplace et ça crée la panique dans les nations. Et puis on monte des frontières et puis on ne sait pas quoi faire avec tout ce monde qui se déplace. Mais Dieu est en train de déplacer pour apporter l'évangile. Vous savez, il y a plus d'âmes qui sont de parmi ces déplacés qui sont en train de venir à Christ que jamais avant. Et ils sont en train de répondre à l'évangile plus que les gens qui sont ici installés avec des petites maisons. Hein. Vous savez, quand on prend du temps à s'asseoir au pied de Jésus, on commence à voir la vie autrement. On ne regarde pas les événements, on regarde à celui qui contrôle les événements. Et il dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais enlevée. C'est-à-dire, c'est pour la vie et pour l'éternité. Vous savez, quand Dieu donne, il ne reprend pas. Dieu ne prête pas. La vie éternelle, il ne la prête pas, il la donne. Et il l'a appelée éternelle parce que justement, elle est éternelle. Elle n'est pas temporaire, elle n'est pas pour un temps. Et puis si tu arrives à tenir bon et si tu restes dans le coup, ben c'est pour toi, sinon si tu relâches, ben tu le perds. Non, 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 il a dit la vie éternelle c'est pour toi, c'est un don et Dieu ne reprend pas. Le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça fait 2000 ans que c'est comme ça et ça sera encore comme ça jusqu'au retour de Jésus-Christ. Laissons les choses comme ça, on va continuer. On est en train de rassembler des morceaux pour voir à la fin comment Dieu utilise tout cela. En Jean chapitre 11, tout un chapitre pour décrire la résurrection de Lazare. Lazare, on ne sait absolument rien sur lui. Il n'y a pas un mot dans la Bible que Lazare a prononcé. Et pourtant, on prend tous ces versets pour parler de cette résurrection, parce qu'elle est importante. Ça fait l'une des clés pour comprendre cette mise en place de la crucifixion de Christ. Nous voyons au début du chapitre 11 de Jean, il nous dit que Lazare est malade. Lazare, c'est le frère de Marthe et Marie. Et ils ont envoyé quelqu'un au verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Donc ils ont envoyé quelqu'un dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Et s'ils ont envoyé, c'est qu'il était vraiment malade. La réalité, c'est que quand vous pensez que Marthe a dit que Jésus, que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours, et donc il y a le premier jour, la personne part pour informer Jésus. Jésus reste 2 jours, puis ensuite il prend 1 jour pour descendre. Ça fait les 4 jours. Ça veut dire que quand l'homme est arrivé pour informer Jésus que Lazare était malade, il était déjà mort. Jésus, il est paniqué. Il dit, oh là, il faudrait aller tout rapidement là, et puis il part en urgence, en courant vers Béthanie. Non. Et même pas, est-ce qu'il a dit un mot pour que Lazare soit guéri? Il n'a rien fait. Mais il a dit pourquoi? Parce qu'au verset 4, il dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oh là, il en a mis beaucoup là-dedans. Il dit, ce n'est pas la mort. Et il dit, il y a un plan. Ça rentre dans le plan de Dieu, et un plan qui portera beaucoup de gloire à Dieu, qui sera la cause de beaucoup de louanges. Et tout à l'heure, nous avons loué le Seigneur pour la croix. Mais c'est cette résurrection de Lazare, ça va être une des choses clés qui vont précipiter la mort de Christ pour que ça arrive avant que les pharisiens aient prévu et pour que ça arrive quand le Seigneur voudra mourir. Il dit, vous savez, des fois nous, on regarde les choses de notre perspective et on dit, ah, Seigneur, tu fais rien, tu bouges pas, pourtant tu es capable, hein? Et je crois que tu es capable. Je croyais que je pouvais compter sur toi. Et on dit toutes sortes de choses pas gentilles. Et que Dieu nous pardonne. Mais parfois, il faut dire, Seigneur, voilà, moi je te dis ce que je pense, mais pour toi tu sais des choses, et peut-être tu sais des choses, et tu veux faire autrement que ce que je pense, et tu es libre, tu es mon Seigneur. Je ne te dis pas ça gratuitement. Je crois vraiment que tu es mon Seigneur. Et je veux que ça soit vrai dans ma vie, que tu es vraiment le Seigneur. Je te confie toute la seigneurie. C'est toi qui décides dans ma vie. Je sais à quoi elle ressemblait lorsque c'était moi qui la dirigeais. Maintenant, je veux que ce soit que toi qui dirige. Et Jésus arrive finalement, 4 jours plus tard, il arrive à Béthanie, et je saute certains détails, je prends ce qui m'intéresse, mais Jésus va profiter de cette occasion, de cette circonstance pour encourager Marthe avec cette parole qui est d'un grand encouragement pour nous tous. Il dira au verset 25 et 26, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bonne question. Et quand Jésus a prononcé cette parole-là, c'était pour Marthe, mais c'était pour nous tous. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Tu me fais confiance? Il n'a pas dit « comprends-tu cela ?» Il a dit « crois-tu cela ?» C'est ça qui est extraordinaire. Quand les hommes réduisent tout à leur intelligence, eh ben faut que ça reste très simple. Et ça ne donne pas grand-chose. Mais si on le fait passer par la foi nous permet d'aller très loin et au-delà des limites de l'univers. La foi nous permet d'aller très loin quand elle est placée en Dieu. Il y a des gens qui disent, moi, je ne comprends pas, donc j'accepte pas. Ben, écoute, ton Dieu, il sera pas très fort. Hein. S'il est limité par tes deux oreilles, c'est pas grand-chose. Mais si la foi te permet de croire des choses que tu ne peux pas comprendre, mais qui sont vraies aussi. Tout à l'heure, ce matin, on voyait arriver un A380 là, qui vole. Est-ce que je comprends qu'un poids pareil puisse voler? Moi, je sais que c'est tout calculé, il y a des règles et tout ça, mais bon, c'est quand même extraordinaire que ça vole. Mais ça ne va pas m'empêcher, si j'ai l'occasion, hein, si quelqu'un m'achète un billet, je vais le prendre. Hein. Parce que j'ai confiance. J'ai confiance en Airbus. Et pour ce qui est des avions, c'est bien placé. Pour ce qui est de ma vie éternelle, alors là, non, je ne compte pas sur Airbus, hein, même si Kéran travaille là. Et ensuite, il y a une autre parole de Jésus quand il arrive devant la tombe. Jésus dit, ouvrez. Marthe dit, excuse-moi, mais Jésus, avec tous mes respects, mais bon, tu sais, ça fait 4 jours. Hein. Et Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Rien que parce que tu ne veux pas croire, tu vas te priver de choses extraordinaires. Il lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore une fois, la foi nous permet d'aller et de voir des choses extraordinaires. Et de voir l'œuvre de Dieu où les autres ne voient rien. Ensuite, nous arrivons là, et sur ce point-là, on voit Jésus qui frémit. Au verset 33, il dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Je suis arrêté souvent pour me demander, mais pourquoi? Puis il avait déjà vu la mort, il avait déjà ressuscité des morts. Il savait bien plus que nous, hein, parce que. Mais vous savez, je crois que. Parce qu'il y a eu des autres moments où il a eu d'angoisse, et c'est toujours en pensant à la croix. Il sait qu'ici, il y a les choses qui vont se déclencher, et ça va précipiter la croix. La croix, ce n'est pas une chose agréable. Il n'a pas été là parce que c'était agréable, il a été là parce que c'était nécessaire de le faire. Et je pense que. Tout d'un coup, il a cette vision de la croix et puis du fait de passer par la mort et d'être que le Père se détourne de lui pendant quelques instants. Et ça l'a fait frémir. Mais il l'a fait pour nous. Et il ne s'est pas arrêté. Il a dit à Jésus, ouvrez. Et il a appelé Lazare. Quelqu'un a dit, heureusement qu'il a appelé Lazare parce que sinon tous les morts du cimetière seraient sortis. Puisque pour lui, c'est aussi facile, mais il a dit, Lazare, sort. Et nous arrivons au verset 45. Il nous dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Et verset 46 nous dit, mais quelques-uns d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Toujours, l'œuvre de Dieu provoque deux réactions. Il y a ceux qui croient et puis il y a ceux qui sont contre. Et là, ils vont vite panique. Ah, Jésus a ressuscité quelqu'un des morts. Il était mort depuis 4 jours et Jésus l'a ressuscité. Et nous savons encore plus aujourd'hui combien c'est impossible. Le miracle est encore plus grand pour nous aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Et il dit, mais il va voir les pharisiens, il dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Regardez ce qu'il a fait. Et tout le monde est dans l'admiration. Tous ces ignorants du peuple-là, ils sont dans l'admiration, ils le suivent. Et vous, que vous allez faire comment? Et c'est vrai. Et tout de suite, Il nous dit, verset 47, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent au Sanhédrin. Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Et si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Alléluia! Et mais après, ils ajoutent, parce qu'on met toujours de la politique là-dedans, comme si Dieu n'existait pas. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, celui qui dirigeait le Sanhédrin ou l'assemblée du peuple, eh bien, c'était un sadducéen. Et si vous savez, vous avez lu la Bible, vous savez que les sadducéens, c'était ceux qui ne croyaient pas à la résurrection. Donc c'est sûr que ça le dérange, lui. Lui, il est embêté. Parce que depuis toute sa vie, il dit à tout le monde, il n'y a pas de résurrection. Et là, il y a quelque chose qui se passe devant lui. Vous comprenez son problème, le pauvre. Mais il n'a qu'à changer, corriger sa vision, c'est tout. C'est lui qui, là, en voulant dire quelque chose de bien et en voulant justifier le fait de mettre à mort Jésus-Christ, va en fait prononcer une parole prophétique. Regardez au verset 51. Il dit, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation et que ce n'était pas pour la nation seulement, que c'était aussi pour afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Au verset 50, il dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il lui dit, écoutez, plutôt que de permettre, donner une excuse aux Romains de venir et de massacrer tous, il vaut mieux en tuer un. Mais en fait, il est en train de dire tout autre chose, parce que Dieu est en train de penser, il dit, oui, c'est vrai, exactement. Et plutôt que de perdre toute l'humanité, eh bien, il vaut mieux qu'il y en ait un qui meure pour eux et leurs péchés, et qu'ils soient tous sauvés. Mais vous savez, vous voyez comment cet homme, malgré lui, il est en train de penser à la croix, il est en train de la mettre en place, Dieu qui est en train d'agir, Dieu qui est en train de réaliser, parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et depuis le début de la Bible, il est là en train de préparer les choses. Et là, il en se sert de cette situation et de la mort de Lazare, qui finalement, pour rien, Lazare n'est ni pécheur, ni est-ce qu'il est mauvais, ni rien du tout. Il fait mourir pour pouvoir le ressusciter, pour que ça précipite les choses pour notre salut. Lazare n'a rien perdu, il a continué sa vie après, mais pour nous, on a tout gagné, parce qu'on a le salut par la grâce, grâce à la mort de Christ. Et nous trouvons au verset 55 à 57, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils, les pharisiens et tous les autres, là, ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisît de lui. Eh ben, il n'était pas loin, il était à Béthanie, juste à côté. Et on le cherchait, et il est là. Eux veulent, les choses commencent à s'arranger, à se mettre en place. Mais il manque encore quelque chose. On a besoin d'une excuse pour le prendre. Et c'est là, encore, Dieu va se servir de Marie, en chapitre 12. Au chapitre 12, ici dans Jean chapitre 12, il ne le dit pas qu'il est chez Simon le lépreux, mais Matthieu 14, verset 3, nous dit qu'il est là. Et bien sûr, Marthe, elle n'a pas changé, hein. Et il dit au verset 2, Marthe servait. Et puis Lazare, bon, c'est comme un bon homme oriental, il est assis à table. Voilà. Mais Marie, elle est pas dans les activités du jour. Elle est ailleurs, parce qu'elle a passé du temps aux pieds de Jésus. Là, elle se présente discrètement, et puis elle prend ce parfum de nard qui a coûté le salaire d'une année d'un salarié agricole. Elle le prend, elle ouvre, elle le répand sur ses pieds, sur sa tête, en adoration. Son petit geste discret, bien sûr, à cause du parfum, ben, tout le monde l'a remarqué. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et un des disciples, verset 4, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Ça, vous savez, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui parlent bien, mais qui, en fait, leur cœur, il est loin de cela. Hein. Ce n'est pas que les politiques qui sont comme ça, ça existe. Et Judas, il est là et il critique encore une fois, il critique Marie. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez tous les dimanches au culte? Et surtout quand il fait beau, parce qu'il n'y a pas tellement de beaux jours à Paris. Et alors, vous allez passer le temps à l'église. Et vous n'avez pas autre chose à faire. Oui, on va être critiqué. Mais, vous savez, celui qui a passé du temps aux pieds de Jésus, il dit, pour moi, c'est un plaisir d'être avec mes frères et sœurs. J'attends toute la semaine pour être avec eux et pour, avec eux, adorer le Seigneur et lui dire combien je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Mais c'est spontané. Mais si on a passé du temps aux pieds du Seigneur, mais si on a seulement regardé comme les pharisiens, eux, ça n'est jamais venu à l'idée. Pourtant, ils étaient religieux. Le fait d'être religieux ne change rien. Religieux ou athée, c'est la même religion, parce que c'est sans Dieu. Il faut beaucoup de foi pour être athée, et puis il faut beaucoup de foi pour être religieux. Mais pour suivre Jésus-Christ, il faut connaître la personne de Jésus-Christ. Et les pharisiens vont commencer à agir. Et là, vous savez, par cet acte de Marie qui adore le Seigneur, et elle a un peu la pensée que David avait exprimée, il a dit, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Vous savez, il y a des gens qui disent, mais moi je vais louer le Seigneur, et puis chante, mais chanter ça ne te coûte rien. En fait, ça te fait plaisir même. Mais est-ce que tu as déjà adoré le Seigneur avec quelque chose qui te coûte? Il dit dans l'Ancien Testament, tu ne te présenteras pas dans la présence de Dieu avec les mains vides. Mais vous savez, cette consécration de Marie, eh bien, ça va purifier cette équipe de disciples. Parce que celui qui est le traître, il va paraître. Jusque-là, il a resté caché. Jusque-là, il a pu se dissimuler parmi les autres. Et avec ses autres disciples, parce qu'eux, ils sont un peu moyens comme ça, ils arrivent. Vous savez, vous allez dans une église où tout le monde est un peu mi-chaud, mi-froid et tout ça. Bon, on peut mettre de tout là-dedans. Tout peut se cacher là-dedans. Même des inconvertis, même des gens qui sont contre. Et puis tout est là. Mais quand vous commencez à avoir des gens qui sont vraiment en train d'adorer le Seigneur, ça fait ressortir les autres. Et là, tout d'un coup, Judas paraît. Jusque-là, il avait réussi à se contrôler. Mais là, tout d'un coup, c'est parti. Et il va se tenir tranquille jusqu'à la fin du repas, mais à la fin du repas, il va aller trouver les pharisiens. Il va dire, écoutez, vous me donnez combien, je vous donne le Jésus. Vous savez, si on veut une église pure, c'est pas en s'acharnant contre ceux qui sont charnels et en les critiquant. C'est en étant spirituel. Et plus je suis attaché à mon Seigneur, plus je marche pour le Seigneur, plus je vis pour le Seigneur, ça fera paraître les autres. Et c'est ainsi qu'on peut purifier l'Église. Les moyens humains sont de commencer à critiquer quelqu'un. Les moyens spirituels, c'est de s'approcher encore plus de Dieu et voir s'il peut s'approcher, lui. Il y a un moment, il ne peut plus. Et il ne suit plus. Et ça, il décroche ou il se donne pleinement. Et c'est ça que nous devons rechercher. Dans l'Apocalypse, il dit « Tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » Il dit « Si tu es froid, ça ne dérange personne. Si tu es chaud, ça dérange ceux qui ne le sont pas. Mais si tu es ni l'un ni l'autre, tu déranges. » J'espère que vous n'êtes pas ni chaud ni froid pendant la semaine. Et là, Judas, ben, il va se dévoiler. Il ira Matthieu 26, 14 à 16. Eh bien, il ira voir les pharisiens. Et il dit, écoutez, moi, je peux vous dire où il est. Et ils vont savoir où il est. Et le soir où il le faudra, ils iront le chercher dans le jardin de Gethsémané et ils le trouveront grâce à ce disciple-là. Et Jésus est parfaitement conscient. Et dans Jean chapitre 13 et au verset 18 à 27, je ne vais peut-être pas lire tout cela, mais là, Jésus révèle, il dit, il y en a un parmi vous qui va me trahir. C'est celui à qui je donne le pain. Et sur le coup, Judas se lève et il sort. Et il va voir les pharisiens et dit, écoutez, ça y est, ce soir, je sais où il est, je peux le trouver, on y va tout de suite. Et finalement, Jésus sera pris, il sera crucifié le jour où il faudra, et sa résurrection se fera le jour où il faudra. Et le plan de Dieu sera réalisé, et chacun aura fait. Mais regardez, ce que je vais faire ressortir, c'est que il y a des personnages. Bien sûr, nous savons qu'il y a eu Pilate, et qu'il y a Hérode, et puis il y a le Sanhédrin, tout ça, toutes ces méchantes personnes, bien sûr, ils ont eu leur part. Mais ce que je vais faire ressortir, c'est que le plan de Dieu s'est réalisé aussi avec des gens qui croyaient. Et des gens tout à fait ordinaires. Marthe. Marie. Lazare. Et ce n'est pas les plus bavards. Lazare, il n'a rien dit. Marie, elle n'a dit qu'une seule parole. Marthe, elle aurait mieux fait de ne pas dire ce qu'elle a dit. Mais on se retrouve avec eux, n'est-ce pas ? Ça nous représente bien. Mais ce sont des personnages que Dieu a utilisés pour accomplir son plan. Ne croyons pas que Dieu ne peut pas nous utiliser. Nous avons une place et Dieu peut se servir de nous. On ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi, mais il peut le faire. Et il a un plan. Les disciples comprendront par la suite que ceux qui leur avaient causé tant de tristesse, parce que Jésus, quand il a rencontré les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, il les a trouvés tout tristes. C'est parce qu'ils n'avaient pas encore compris le plan de Dieu. Mais une fois qu'ils l'auront compris, une fois que ça sera révélé, eh bien là, ils retourneront à Jérusalem pour l'annoncer qu'ils ont vu le Christ. Autant Dieu peut exploiter la haine et la méchanceté des cœurs d'Hérode, de Pilate et des membres du Sanhédrin, autant il a su utiliser l'amour d'une fratrie, Marthe, Marie, Lazare, pour provoquer sa mort, mais pour lui donner l'opportunité de devenir notre sauveur, notre rédempteur. Et parce qu'il était notre sacrifice, il peut aussi être notre médiateur. Et nous n'avons pas besoin d'autres médiateurs. Vous savez, vous êtes autant utile à Dieu par votre amour que d'autres le sont par leur méchanceté. Vous pouvez choisir. Soit je sers Dieu en étant opposé. Il s'est servi de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Il s'est servi de Pharaon, il s'est servi de... Autant il peut se servir de ces gens dans leur méchanceté, autant il peut se servir de nous par notre amour. Et c'est à nous de cultiver cet amour, que l'Esprit de Dieu puisse le produire en nous et qu'il y ait une plus grande consécration, un plus grand attachement au Seigneur, afin qu'il nous utilise pour réaliser son plan. Écoutez, la France a besoin de quelque chose. Elle ne sait pas encore ce dont elle a besoin, mais nous savons ce dont elle a besoin. C'est Jésus-Christ et nul autre. Mais Dieu dit, je ne peux pas leur donner et faire connaître Jésus-Christ sinon par vous, mes enfants. Et chacun, avec sa personne, Marthe, avec son désir de courir, Marie, avec sa mélancolie, Lazare avec sa timidité, oui, mais Dieu se sert. Et Dieu peut se servir, il n'y en a pas un qui n'est pas utile. Et s'il n'est pas utile, c'est parce qu'il ne le veut pas, parce que Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Et on n'a pas besoin d'être reconnu par les hommes, on n'a pas besoin d'être reconnu ou même vu. Dieu nous a parlé, il a dit, Marie a choisi la bonne part. Et que chacun de nous soyons prêts à choisir cette bonne part. Vous savez que vous êtes d'un plus grand témoignage pour Dieu par ce que vous êtes que par ce que vous faites. Et une fois que vous êtes, ce que vous ferez sera très bien. Vous êtes un plus grand témoignage par ce que vous êtes en Jésus-Christ que par ce que vous faites pour lui. Il a dit, moi, je n'ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est toi. Pas ce que tu sais faire, c'est toi que je veux. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton temps et je m'en servirai. Il n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller s'isoler dans un monastère ou dans les... Non, non. Il se sert de nous là où nous sommes, comme nous sommes, avec la personnalité que nous avons. Mais il faut qu'elle soit consacrée à lui. Il faut que l'œuvre de l'Esprit de Dieu transparaisse et que le fruit soit là. Et vous savez, vous serez un argument que le monde ne sait pas traiter parce qu'ils ne pourront pas l'expliquer. L'être va déterminer le faire. Jésus a fait tout cela pour devenir notre sacrifice pour les péchés. Si lui a pris cet acte au sérieux, c'est qu'il savait des choses que nous ne savons pas et que c'était nécessaire et indispensable pour qu'il prenne cette voie-là pour obtenir notre salut. C'est qu'il n'y avait pas d'autre voie. Et maintenant, le choix est devant chacun d'entre nous. C'est une question de choix. Dieu est Dieu puissant, mais c'est à moi de choisir. Et quelle part est-ce que je veux choisir? La bonne part qu'on ne perd jamais, celle de se donner pleinement à Dieu. Je ne dis pas une religion, je ne dis pas le christianisme, je dis Christ et personne d'autre. Jésus n'a pas pris ses disciples et ils ont construit des bâtiments et puis il n'a pas construit un système, rien du tout. Tout ce qu'on a vu, c'est Jésus et qui nous a révélé le Père. C'est ce que je veux, c'est tout ce que je veux et ça me suffit largement. Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui intercède pour moi dans la présence de Dieu, qui prépare une place afin que là où il est, il puisse être aussi un jour. Dites, mais tu rêves. Écoutez, un rêve qui est un vrai rêve, c'est super. Mais celui qui a un rêve qui est basé sur rien du tout, c'est du « j'espère, j'espère, j'espère », ça, c'est rien du tout. Mais celui qui est bâti sur des promesses, ça, c'est quelque chose de sûr. Et si les disciples étaient prêts à mourir pour cette cause, eh bien, que Dieu nous donne le courage de vivre pour cette cause. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ, vous dites, mais bon, j'ai entendu parler de Christ, j'ai vu des crucifix, j'ai vu comme ça, et beaucoup de choses. Oui, bien sûr, j'ai entendu, mais je n'ai pas vu le rapport avec moi. Écoutez, Jésus a fait tout cela. Il a coordonné tellement de choses, et j'en ai mentionné qu'une partie, pour pouvoir mourir sur la croix, pour devenir mon sauveur, votre sauveur. Et il vous suffit de vous tourner vers lui. Vous n'avez pas besoin de regarder à un homme même. Regardez à Jésus-Christ, dire « Jésus-Christ, tu as vécu sur la terre, tu comprends ma situation, tu comprends mon problème, tu comprends tout sur moi. » Et j'ai essayé de faire ma vie, mais ça manque. J'ai l'impression d'être comme le... Comment on a dit, c'est... Vous savez, ces petits animaux là quoi, qui sont rentrent dans des roues et puis qui courent... les hamsters, là. Mais c'est dingue. Il est là-dedans et puis il court et il est content de lui. Mais vous savez, il y a combien d'hommes qui le font? Ils vivent leur vie à la fin et disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et où j'ai été nulle part. Et j'ai, en plus, j'ai perdu mes enfants et puis ma femme, elle est partie. Écoutez, c'est pas drôle. Tandis que je viens à Jésus-Christ, je commence à faire les choses comme lui veut. Et c'est une autre vie. Et c'est une vie de délivrance. Une dame est dite à l'église de Fréjus quand elle a compris l'évangile. Elle a dit, si j'avais su plus tôt, ça m'aurait évité beaucoup de soucis. Elle dit, je viens de l'entendre pour la première fois. Oui, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Vous êtes là devant cette situation. Vous pouvez faire comme Marie, qui n'a pas dit grand-chose, mais qui a choisi la bonne part. Si vous êtes enfant de Dieu, écoutez, donnons-nous pleinement. Lui a tout donné. Comment est-ce que je peux donner moins que lui? Et ce n'est pas une question de tout quitter, c'est une question de vivre pour lui là où je suis. Et puis pour l'Église de Jésus-Christ, si elle veut être un point d'attraction pour ce monde perdu, eh bien, c'est en nous attachant plus en plus à Jésus-Christ que nous pourrons purifier l'Église. Ce n'est pas une question de plaindre et dire oh, les hypocrites et ceci, cela. Ben, les hypocrites, ou ils se corrigent ou ils partent. Parce qu'on va s'approcher du Seigneur de plus en plus. Et on va vivre pour lui. Et être un flambeau pour lui dans ce monde de ténèbres. Nous allons prier. Mais c'est vous qui allez prier les premiers, dans le silence de votre cœur. Et chacun en fonction de ce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu a pu lui dire. Peut-être que votre seule prière, c'est « Dieu, je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je veux chercher, aide-moi. » C'est une vraie prière, ça. Pour un autre, c'est « Seigneur, excuse-moi, j'ai été distrait, j'ai été attiré par les choses du monde et je te demande pardon, je veux revenir à toi. Je veux que tu m'utilises pour accomplir ton plan quand tu es en train de bâtir ton église dans ce monde et je veux faire partie de cela. » Je ne sais pas, je vais me taire maintenant et parler à votre Seigneur. Seigneur, nous avons ouvert ta parole, nous avons invoqué l'œuvre de ton esprit. Tu sais ce qui se passe dans les pensées de chacun et surtout dans le cœur de chacun et tu sais chacun où il se trouve. Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous comparer les uns aux autres, nous sommes là pour te plaire. prendre la part que tu recommandes. Et Seigneur, être utilisé par toi dans ton plan. Actuellement, ce n'est pas une question de préparer la croix, c'est une question de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Tu l'as bâtie, mais tu veux te servir de nous. Et Seigneur, c'est à nous d'être... Nous préférons être avec ceux qui sont pour toi, que tu utilises, que ceux qui sont contre toi et que tu utilises. Seigneur, tu as entendu les prières des uns et des autres. Je te prie d'accompagner chacun dans sa prière, de répondre et de l'aider à réaliser ce vœu. Et que ce soit à ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, Père, que je te prie. Amen.